Ah oui, les lives s'enchaînent et c'est pas toujours évident. La vidéo de l'enlèvement de la famille Bibas remet le dossier des otages sur le devant de la scène internationale. Alors Lise, vous en parlez avec notre invité ce matin que je vous laisse le soin de nous présenter, bien sûr.
Je suis ravie d'être ce matin avec Daniel Haïk, analyste politique pour i24 News. Bonjour Daniel.
Bonjour Lise, Boker Tov.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Donc, vidéo publiée par Tsahal hier soir, celle de l'enlèvement donc de Shiri Bibas et de ses enfants Ariel, 4 ans, et le petit Kfir qui avait à l'époque 9 mois. Évidemment, les proches de la famille ont réagi en disant à quel point c'est difficile pour eux de voir cette scène et qu'ils lancent un appel désespéré à tous les décideurs en Israël et dans le monde. Daniel, comment vous avez l'impression que ces images ont été perçues en Israël ?
Bien, je dirais deux choses. D'abord, que cette vidéo, apparemment, cette décision de diffuser cette vidéo par le porte-parole de Tsahal a été encouragée, entre guillemets, par la famille Bibas, qui, on se souvient, au moment de la libération des 100 premiers otages au mois de novembre, eh bien, Kfir Bibas était le symbole de cette terrible journée du 7 octobre. C'était devenu véritablement un symbole national, ce petit enfant, ce bébé qui a passé le cap de ses un an en détention dans les geôles du Hamas. C'était un symbole et il faut avouer qu'au cours des dernières semaines, on n'a pas beaucoup parlé de la famille Bibas. Et d'une certaine manière, la famille voulait remettre, on va dire, sur le devant de la scène ses préoccupations quant au sort de Shiri Bibas et de ses deux enfants, ainsi que de son mari, qui, on le sait, est détenu apparemment séparément du reste de sa famille. Donc, effectivement, la famille voulait qu'on reparle un peu de ce dossier et cela a été rendu possible à travers les découvertes faites par l'armée israélienne de ces cassettes, de ces vidéos de certains quartiers de Khan Younes qui ont été découverts par l'armée israélienne et donc qui ont permis de retrouver la trace de Shiri et de ses deux enfants. Donc ça, c'est la première explication. Par contre, je dirais que cette vidéo bien suscite plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses concrètement, parce que bien lorsque l'on n'est pas véritablement au fait de toute l'actualité et de tous les développements sécuritaires, bien on peut se demander par exemple, Lise, pourquoi finalement, à partir du moment où l'armée israélienne a décidé d'entrer dans la bande de Gaza, alors qu'elle savait pertinemment qu'il y avait des otages qui avaient été acheminés vers le sud de la bande de Gaza, vers Khan Younes, qui est considéré comme le bastion des dirigeants du Hamas, de Yahya Sinwar en particulier, pourquoi finalement eh bien, l'armée israélienne s'est focalisée uniquement dans son attaque sur le nord de la bande de Gaza, a divisé la bande de Gaza en deux et n'a pas envisagé une opération à l'intérieur du sud de la bande de Gaza, peut-être même de ce que l'on appelle l'axe Philadelphie, pour empêcher toute possibilité aux terroristes de franchir la frontière, de se réfugier en territoire égyptien et vous l'avez certainement annoncé, aujourd'hui on parle d'une possible fuite de Yahya Sinwar à l'intérieur du territoire israélien via des tunnels qui passeraient sous la frontière, sous justement l'axe Philadelphie. Donc c'est une question que l'on peut se poser. Bien entendu, nous n'avons pas de réponse à cette question, il faudrait la poser aux dirigeants de l'armée israélienne, mais effectivement le fait est que on a beaucoup de mal à retrouver des traces d'otages, à l'exception par exemple de ce qui s'est passé la semaine dernière, la libération héroïque, on va dire extrêmement chirurgicale de ces deux otages la semaine dernière grâce aux forces de sécurité, aux forces d'unité spéciale de l'armée et de la police israélienne.
Daniel, est-ce que ces derniers temps, le dossier des otages n'était pas devenu très politisé en Israël, puisqu'il y avait, on va dire en caricaturant un petit peu, plutôt Yesh Atid et des gens qui d'habitude manifestent contre le gouvernement Netanyahou, qui étaient pour la libération des otages à tout prix, et en face des gens qui disaient plutôt qu'il faut absolument finir le travail et éliminer le Hamas avant d'envisager quoi que ce soit?
Oui, effectivement, on peut dire que on va essayer de revoir chronologiquement les choses. À partir du moment où le Hamas, il y a une dizaine de jours de cela, a repoussé très clairement, presque de 15 jours, la proposition faite par les responsables du Shin Bet, du Mossad, le Premier ministre qatari et le chef de la CIA, le contour d'un tel accord qui avait été défini à Paris. À partir du moment où le Hamas repousse cette proposition, eh bien, il fournit d'une certaine manière, il va dans le sens de Benjamin Netanyahou qui dit qu'il n'y a rien à attendre comme cela du Hamas et que ce n'est que en exerçant des pressions militaires sur le terrain, eh bien, que le Hamas acceptera le dos au mur de libérer une partie des otages. Et donc, on a vu à ce moment-là Benjamin Netanyahou durcir le ton et dire priorité à l'éradication du Hamas. Et à partir de là, on a vu également, du côté de l'état-major des familles d'otages, on a vu un durcissement du positionnement, et on a vu à nouveau, et là de manière beaucoup plus intense, on a vu des manifestations qui rappelaient bien entendu celles d'avant le 7 octobre autour de la réforme judiciaire, des manifestations sur le boulevard Kaplan, boulevard symbolique, hein, qui a été le boulevard marquant de la protestation avant le 7 octobre. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut dire effectivement que le combat des familles des otages a été très nettement politisé. Il l'a été, il faut le souligner, également à travers un homme qui est considéré comme le chef d'état-major justement de ce comité des familles d'otages. Il s'appelle Ronen Tsour. Il a annoncé hier sa démission justement parce que, eh bien, une partie des familles des otages n'était pas satisfaite de son implication et de cette politisation trop marquante du combat en faveur de la libération des otages constatée ces dernières semaines. Ronen Tsour, il faut le souligner, c'était donc l'un des artisans de la protestation contre la réforme jusqu'au 7 octobre. C'est un homme qui a créé un parti politique l'été dernier qui se voulait de manière virulente anti-Benyamin Netanyahou. Et donc, quelque part, même si grâce, on va dire, à un soutien tacite d'une partie de la presse israélienne, eh bien, on a mis de côté, on va dire, cet aspect de la personnalité de Ronen Tsour, eh bien, celle-ci a ressurgi ces dernières semaines lorsque on a eu le sentiment, eh bien, que le gouvernement israélien donnait priorité à ce que Benjamin Netanyahou appelle la victoire totale sur le Hamas au détriment donc de la cause des otages.
Une dernière question rapidement, Daniel. Pas beaucoup d'avancées ces derniers temps sur ce dossier des otages.
Non, pas véritablement d'avancée, effectivement, et Benjamin Netanyahou l'a répété ces derniers jours, tant que le Hamas continuera à avancer des exigences, des requêtes qui sont ahurissantes, eh bien, il n'y aura pas de changement. Les requêtes ahurissantes signifient l'arrêt total des combats. Il n'en est pas question côté israélien. Requête ahurissante, c'est également un retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Il n'en est pas question également pour le gouvernement israélien. Et effectivement, dans ce contexte, tant que apparemment, eh bien, Yahya Sinwar ne se sentira pas le dos au mur, et s'il est déjà parti vers l'Égypte, eh bien, il aura du mal à se sentir le dos au mur. Eh bien, il sera difficile d'exercer des pressions en faveur de la libération des otages, et on restera dans une forme d'impasse que l'on constate aujourd'hui dans les pourparlers qui se poursuivent même à petit feu entre les différentes parties.
Ben ça, c'est pas très rassurant, Daniel. Déjà que le porte-parole de
Malheureusement.
Tzal disait qu'il avait des craintes pour les Bibas, c'est pas ce que vous nous dites qui va nous donner de l'optimisme.
Je suis désolé de vous décevoir à ce sujet ce
Non, non,
matin.
je sais, Daniel, que malheureusement, hein, c'est la vérité, mais c'est vrai que ça fend le cœur de tout
Bien
le peuple
entendu.
juif. Hein, ouais.
Bien entendu, bien entendu.
Et j'espère de l'humanité tout entière. Bonne journée à vous, Daniel Haïk,
Merci,
analyste
Lise.
politique et 24 News. Merci d'avoir été avec nous ce matin.